France Musique.
Comme tous les lundis, c'est l'heure de la chronique écho d'Antoine Pecker. Antoine, vous revenez ce matin sur le dernier livre de Thomas Piketty, Capital et idéologie, sorti au Seuil. Que peut-on tirer de ce livre pour l'économie de la culture et notamment de la musique ?
Ce livre, Sophia, c'est la suite du Capital au XXIe siècle, qui était sorti en 2013, on s'en souvient. À nouveau, Thomas Piketty revient sur la question fondamentale des inégalités. Comme il le constate d'emblée, chaque société humaine doit justifier ses inégalités, dont la montée est nette depuis les années 80-90. Et ces inégalités, on les retrouve pleinement dans le champ culturel. Rien que dans la sphère musicale, en matière de revenus, vous avez à l'échelle française, d'un côté, des enseignants de conservatoire qui gagnent 1 500 € par mois, et de l'autre, des chefs ou des solistes qui sont payés 15 000, 20 000 €, voire parfois plus, par concert. Et l'argument consistant à dire que ces salaires se justifient car ces stars permettent de remplir les salles tient peu, surtout quand il vient de structures subventionnées jusqu'à 90% par la puissance publique.
Et l'enjeu central pour Thomas Piketty, c'est celui de la fiscalité.
Pour le chercheur, aujourd'hui, la fiscalité est injuste. Il développe l'idée d'une imposition plus progressive et dénonce l'inégalité entre propriétaires et non-propriétaires. En musique, comment tolérer que des structures publiques financent des artistes qui pratiquent ouvertement l'optimisation fiscale, à l'instar de ce que l'on voit dans d'autres pans de la société? Des directeurs musicaux en poste ne payent pas leurs impôts en France. Pour cela, ils négocient, ou plutôt leurs avocats fiscalistes négocient pour eux, un volume horaire de travail qui leur permet de ne pas y être contraints. Pendant ce temps, les musiciens d'orchestre qui jouent sous leur direction payent bien sûr leurs impôts en France.
Thomas Piketty consacre également plusieurs pages à la question de l'accès à l'éducation, Antoine.
Sa thèse est de dire que c'est le combat pour l'éducation et non la sacralisation de la propriété qui a permis le développement économique et le progrès humain. Car Piketty, et il a raison, relie l'économie aux sciences humaines, en montrant là aussi les inégalités d'accès qui restent criantes en la matière. Il dénonce le fait que les budgets consacrés à l'éducation par la puissance publique, en France et ailleurs, ne connaissent pas d'augmentation majeure depuis plusieurs années. Les politiques défendent à longueur de discours l'éducation artistique et culturelle, mais ne lui donnent toujours pas de réels moyens.
Et enfin, alors qu'une réforme du mécénat est en cours, vous êtes particulièrement intéressé à un chapitre consacré à la philanthropie.
Piketty parle, je le cite, de l'illusion philanthropique. S'il note que l'argent privé peut avoir un réel intérêt pour la culture, il tient aussi à mettre en garde quand le discours philanthropique est mis au service d'une idéologie anti-État particulièrement dangereuse, ce sont ses mots. Il souligne que les dons sont extrêmement concentrés parmi les plus riches, qui bénéficient souvent de surcroît d'avantages fiscaux importants. Et cela aboutit à ce que les classes moyennes et pauvres subventionnent par leurs impôts les préférences des plus riches. C'est pour Piketty une nouvelle forme de confiscation du bien public. Et cela participe aussi à la sacralisation des milliardaires. Le chercheur note avec ironie qu'il y a aujourd'hui d'un côté les oligarques russes ou les milliardaires chinois qui ne méritent pas leur fortune, et de l'autre les entrepreneurs européens et états-uniens, de préférence californiens, dont il est de bon ton de chanter les louanges. Ceux-là même qui, comme Bill Gates, investissent justement dans la philanthropie. Pour finir, je ne peux donc que vous inciter à lire cet ouvrage aussi brillant que documenté, qui offre matière à réflexion pour imaginer un autre avenir économique et donc aussi de la culture.
Merci beaucoup Antoine pour cette chronique en partenariat avec La Lettre du Musicien. On vous retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Et on termine, Sophia, par Le Figaro qui rend hommage ce matin au ténor.
À l'occasion de la sortie du documentaire de Ron Howard sur Pavarotti ce mercredi, le journal revient sur la carrière de ce dernier ainsi que sur celle d'une autre légende, Enrico Caruso, tout en répondant à cette question: pourquoi sommes-nous tant fascinés par les voix de ténor? Cela tient en partie aux rôles qui leur sont décernés dans le grand opéra, explique le philosophe Francis Wolff, des rôles d'amoureux conquérants qui, je cite, mêlent séduction sexuelle et force guerrière.
Et France Musique est partenaire du documentaire Pavarotti de Ron Howard. On y revient mercredi dans Musique Matin avec plusieurs invités, dont le réalisateur Ron Howard, mais également Nicoletta Mantovani, sa seconde veuve, qui est un peu à l'origine du film avec un certain nombre d'archives inédites. On découvrira ça, tout ça après-demain donc. Et puis Caruso, qui était aussi à l'honneur, parce que c'est un hommage que rend Roberto Alagna au chanteur. Et ça, ce sera demain, puisque Roberto Alagna sera notre invité. Merci, Sophia. À demain.
À demain. Bonne journée.
Bonne journée.
À réécouter sur francemusique.fr.